Voyage au bout du monde, une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Nous partons sur la route de la soie aujourd'hui avec Marco Polo, enfin ou plus exactement avec Patrick Matté, photographe et cinéaste. Patrick Matté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres conférencier pour les films Altaïr et c'est à l'occasion de la projection de votre dernier film en Mayenne que nous nous sommes rencontrés. Donc merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter un petit peu plus en détail ?
Oui, alors bonjour. De base, je suis en Haute-Savoie, je suis un Haut-Savoyard. J'habite dans un tout petit village, c'est une toute petite station de ski et devant chez moi il y a des vaches puisqu'on fabrique de l'abondance, du reblochon, enfin les produits de base pour la raclette, etc. Au niveau professionnel, en fait j'ai fait des études de médecine au départ et après j'ai basculé vers le cinéma parce que j'avais besoin d'horizons un peu plus vastes. Ça fait 40 ans maintenant que je me balade à travers le monde. Mes premiers reportages m'ont orienté en Amérique du Sud. Ensuite, je suis parti en Afrique, à Madagascar. Après, j'ai été en Russie. Après, j'ai passé pratiquement 6 ans en Alaska pour réaliser un film sur les traces de Jack London. Là, j'ai vécu pendant 1 an et demi avec les Inuits pour aller chasser la baleine avec un petit harpon à main dans des oumiaks. Enfin, c'était une solide aventure. Et avant, on avait descendu. J'avais retracé l'histoire de Jack London, de la ruée vers l'or du Klondike. Ça, c'est la première partie de mon parcours. Ensuite, je suis parti en Chine, où je vis d'ailleurs aujourd'hui. Je suis installé dans l'Himalaya au pied du Tibet depuis 20 ans. Alors, je me partage entre la France et la Chine. Mon épouse d'ailleurs est chinoise, enfin, elle est moitié tibétaine plus exactement, et Nashi, qui est une des minorités du nord-ouest de la province du Yunnan. Pendant 20 ans, j'ai fait 4 films en Chine. Différents, donc sur la route du thé, j'ai retracé toute l'histoire du fleuve Yangtze-Kiang. J'ai eu la chance de pouvoir atteindre les sources du fleuve Yangtze-Kiang. On doit être aujourd'hui une 20aine à avoir mis les pieds là-haut.
C'est une poignée.
C'est une solide balade, il y a à peu près 500 km à pied à 6000 mètres d'altitude, et il n'y a strictement personne. Donc ça a été un film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé tourner ce film, et c'est à cette époque d'ailleurs que j'ai découvert la petite ville de Lijiang, où je suis maintenant installé, qui était sur les hauteurs de ce fleuve Yangtze-Kiang. Voilà. Et là, en fait, donc, mon avant-dernier film traite de la route de la soie, et je suis revenu juste avant la crise du Covid. J'ai fait un nouveau reportage sur les Philippines, sur l'histoire de la route des épices, Magellan, etc. etc. Donc voilà globalement mon parcours professionnel. Et puis sinon, vous avez compris que je suis un montagnard, je suis un homme qui aime les espaces, qui aime le feu dehors. Enfin voilà, je suis parfait pour vivre dans des villes et dans des petits coins confinés.
Merci beaucoup Patrick Matté pour cette présentation assez vaste. Mais par contre, je ne vous remercie pas parce que vous nous créez beaucoup de frustration, parce qu'on aurait pu faire toute une série d'émissions et suivre tous vos voyages finalement pas à pas. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur ce film qui est présenté donc par la société Altaïr, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on connaissait comme connaissance du monde, hein. Je crois qu'on peut
pendant 40 ans pour connaissance du monde et aujourd'hui je suis à Altaïr, voilà.
Donc aujourd'hui vous nous emmenez sur la route de la soie en suivant un petit peu les pas de Marco Polo entre autres.
Oui, alors j'ai cherché un fil rouge et en fait j'ai relu le bouquin de Marco Polo que j'avais lu tout gamin puisque j'étais un gros lecteur tout jeune et en fait d'ailleurs j'ai réalisé par la suite que tous les films que je faisais, peut-être à l'exception des Philippines, et encore ce n'est pas vrai parce que Magellan, j'avais aussi lu sa vie, en fait ça retrace à chaque fois, ça correspond à mes lectures de gamin.
Comme quoi là, pour les parents ou les grands-parents qui nous écoutent, hein, c'est important de bien choisir les livres qu'on donne à nos enfants, ça les fait rêver.
Ah ben évidemment, il faut choisir des livres d'aventure et c'est vrai que ça fait rêver les gamins et moi ça m'a fait rêver et aujourd'hui je me suis orienté dans cette direction. Donc j'ai repotassé en détail le livre de Marco Polo plus beaucoup d'autres et puis je me suis dit, je vais partir sur ces traces, on va passer dans tous les oasis où Marco Polo est passé à son époque, et puis je vais faire découvrir cette histoire de la route de la soie, c'est la partie chinoise de la route de la soie uniquement. Ça m'a occupé pour tourner ce film, j'ai fait plus de 40 000 km, c'est-à-dire j'ai fait le tour du monde, mine de rien, je m'en suis rendu compte à la fin. Ça donne une idée de la géographie de la Chine, et puis en fait quand on fait un reportage, on va à la frontière du Kazakhstan, on retraverse les montagnes célestes, on remonte sur le plateau du Tibet, on descend sur la route de la soie, parce qu'en fait il y a plein de connexions historiques si vous voulez. Ça nous a occupé 3 ans avec mon épouse, on a fait 3 voyages en totalité, nous avons dû passer là-bas une bonne année et demie pour faire le film sur place, quoi. à peu près, en tout.
Et on va essayer de résumer ça en 20 minutes. C'est une belle gageure hein, qu'on n'arrivera pas à tenir. Hein. En gros, votre départ, il se situe dans le centre-est de la Chine.
Oui, le départ, c'est la ville impériale de Xi'an, que l'on appelait autrefois Chang'an, qui a été pendant très longtemps la capitale de la Chine dans l'histoire, et qui était d'ailleurs à l'époque la plus grande ville du monde et de très très loin. Donc c'est de là que partaient les caravaniers, qui ensuite progressaient vers Lanzhou, et de là, ils progressaient en traversant ce qu'on appelle le corridor de Reshi, d'oasis en oasis. Alors il y avait Wuwei, Zhangye, Jiajuguan et Dunhuang, qui étaient à la fin du Gobi et à l'entrée du désert du Taklamakan. Et de Dunhuang partaient deux pistes, une qui passait par le nord du désert du Taklamakan, on ne pouvait pas le traverser à l'intérieur, c'est le deuxième plus grand désert du monde et c'est un désert redoutable, et il y avait une autre piste qui passait au sud du désert, et ces deux pistes se retrouvaient à Kashgar, ville assez connue dans l'histoire parce qu'il y a eu des consuls qui étaient installés là-bas parce qu'à l'époque, ils voulaient mettre un peu la main sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Xinjiang. Donc, il y avait tout un conflit historique entre les Russes, les Anglais, etc. Et ensuite, ils montaient sur le Pamir jusqu'à Taxkorgan. Et de là, il y avait plusieurs pistes. Ils s'enfilaient soit par l'Afghanistan, soit par le Pakistan. Et il y avait des pistes qui descendaient pas vers l'Inde aussi. Parce qu'en fait, la route de la soie, ce n'est pas une seule piste. C'est un maillage d'une multitude de pistes. Dans la région où j'habite, au Yunnan, il y avait aussi une piste qui montait rejoindre cette route de la soie. En fait, de la Chine convergeait une multitude de pistes qui rejoignaient l'axe principal, dirons-nous, de cette route de la soie. Donc voilà à peu près comment était articulée cette piste. Et ensuite, vous savez qu'elle traversait tout l'Orient, le Moyen-Orient, et elle finissait sur les berges de la Méditerranée. Et en fait, elle finissait, on va dire, à Venise, si on veut, quoi, voilà.
Vous, ce n'est pas la soie que vous cherchiez, c'était les paysages, les cultures. Si on part progressivement de votre point de départ, Xi'an, s'il fallait faire quelques étapes, particulièrement pour nos auditeurs, quelle serait la première étape avec laquelle vous avez envie de nous faire rêver?
La première étape qui est mondialement connue, là je n'ai rien découvert d'exceptionnel à Xi'an, c'est là que se trouve la célèbre armée enterrée du premier empereur de Chine, qui avait un nom un petit peu curieux, qui s'appelait Qin Shi Huangdi, et qui en 221 avant Jésus-Christ a fait pour la première fois l'unité de la Chine. Alors c'était un empereur mégalomane, son tombeau n'a toujours jamais été fouillé. On raconte qu'à l'intérieur, il y aurait un plan de tout son empire avec des rivières de mercure au flot ininterrompu, un plafond peut-être incrusté de pierres précieuses qui représentaient la voûte céleste. Tous les ouvriers, certainement beaucoup de concubines qui avaient participé à l'élaboration de ce tombeau, ou les concubines qui vivaient avec lui, auraient été tuées ou enterrées vivantes là-dedans, on ne sait pas trop, on n'est jamais allé voir. J'aimerais bien y aller d'ailleurs.
Et pourquoi personne n'a jamais été voir? Parce qu'on ne l'a pas localisé?
Alors, ils ne sont pas allés voir pour une raison relativement simple. Ils ont découvert en 1974, je ne crois pas dire de bêtises, cette célèbre armée enterrée. Donc là, c'est un boulot absolument prodigieux pour tout mettre à l'air.
Sur cette armée enterrée, essayez de nous aider à la visualiser en fait.
À la visualiser, ce sont en fait des tranchées dans le sol qui entourait son tombeau et dans lequel étaient dressés plus de 6000 soldats qui tous avaient une tête différente, qui étaient peints, qui étaient armés, etc. Il y avait des chars en bronze, enfin, c'était son armée qu'on avait été reconstituée. Ça a duré, il y avait 720 000 hommes qui ont travaillé pendant plus de 35 ans. Et à sa mort, le tombeau n'était pas fini. Et alors son tombeau, lui, n'a jamais été fouillé parce qu'ils ont déjà un tel travail avec tous ces soldats enterrés, dont ils n'ont d'ailleurs sorti qu'une partie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en les sortant, toutes ces couleurs vives n'étaient plus vives, mais enfin on voyait encore les couleurs. En fait, avec leur mise à l'air, si vous voulez, toutes ces couleurs ont disparu. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas plus loin. Il y a beaucoup, beaucoup de tombeaux en Chine qui n'ont jamais été fouillés. Car ils savent très bien que s'ils ouvrent ces tombeaux, ils vont trouver une montagne d'objets, tous plus précieux les uns que les autres. Or, pour stocker tout ça, il faut des hangars gigantesques, avec des degrés hygrométriques précis, une température et tout. Et il y a une multitude de tombes, ils les connaissent, mais elles n'ont jamais été fouillées. Mais je dois vous dire que la tombe de cet empereur, j'aimerais bien être le premier à descendre dedans, ça doit être quelque chose.
Alors donc, cette armée enterrée, ensuite, est-ce qu'on arrive vite au désert de Gobi ou c'est peut-être...
Alors ensuite, on traverse une province qui s'appelle Gansu, on arrive dans une ville qui s'appelle Lanzhou, qui est une ville relativement importante en Chine, et qui est située sur les berges du fleuve Jaune. Alors autrefois, depuis cette ville, les caravaniers traversaient le fleuve Jaune pour suivre la piste de la soie. Alors pour traverser le fleuve Jaune, ils avaient d'énormes radeaux construits, si vous voulez, avec des peaux de mouton gonflées d'air et sur lesquels ben, ils mettaient un treillis de bois ou de bambou et ils faisaient passer les armées, ils faisaient passer les chameaux, les chevaux. Et aujourd'hui, on peut toujours voir sur le fleuve ces embarcations naviguées. Les locaux les ont remis au goût du jour pour les touristes. Et une fois qu'ils étaient de l'autre côté, la route de la soie suivait sur une grande partie le fleuve Jaune, donc ils marchaient sur les berges. Alors aujourd'hui, une grande partie dans cette région de la route de la soie a disparu parce qu'ils ont construit un énorme barrage, parce qu'ils ont besoin d'électricité. Et donc la route de la soie aujourd'hui, elle est au fond de ce réservoir. Donc pour accéder à un autre site qui est exceptionnel, on est obligé de prendre un bateau. Alors on navigue dans cet énorme réservoir et on arrive sur un site bouddhique qui s'appelle Bingling. Au 3e siècle après Jésus-Christ, il y a beaucoup de moines bouddhistes venus d'Inde qui sont installés en Chine et qui ont créé des temples un peu partout. Ce qui est passionnant dans l'histoire de la route de la soie, c'est justement, et j'insiste beaucoup là-dessus dans le reportage, c'est tout cet apport extérieur qui va arriver en Chine, venu d'Inde, du Moyen-Orient et d'une multitude d'autres pays qui étaient autour. Il y a beaucoup de voyageurs qui vont arriver, mais ça va surtout véhiculer, non pas seulement, je dirais, des marchandises, mais beaucoup d'idées, de croyances. Et l'impact de ces croyances qui avaient été véhiculées, on le voit très très bien, avec une multitude de sites bouddhiques absolument colossales. Il y a à Denrong, en plein désert, un site qui s'appelle Mogao. C'est le plus grand musée au monde d'art bouddhique, ça a duré 1000 ans pour le mettre en place. C'était absolument prodigieux. Et pendant 1000 ans, cette route de la soie qui aujourd'hui est totalement musulmane, on est chez les Ouïghours, enfin une grande partie, en fait pendant 1000 ans, entre l'an 0, je dirais l'an 1000, pour faire simple, c'était une région qui était entièrement tournée vers le bouddhisme. Et c'est pour cela qu'il y a des sites bouddhiques incroyables absolument partout, des bouddhas de 35 mètres de haut, dans les montagnes, dans les falaises. C'est prodigieux, c'est d'une grande beauté.
Et d'une grande compétence aussi pour aller mettre des endroits inaccessibles.
Mais il y avait une compétence pour les construire, avec des armatures en bois à l'intérieur sur lesquelles ils venaient mettre des couches d'argile. Enfin, c'était des artistes exceptionnels. Et puis, il y a eu une bataille en 8e siècle, en fait, où les Chinois, parce que les Chinois se battaient sans arrêt contre, notamment les Huns, contre des nomades qui vivaient en Mongolie. Ça a été le gros problème des Chinois. Et la Mongolie, avant d'être mongole, fut turque. Il y avait une multitude de tribus turques. Les plus connus sont les Xiongnu, que l'on considère souvent comme les ancêtres des Huns, et qui, pendant des siècles, ont ravagé la route de la soie. Donc les Chinois, pour pouvoir faire du commerce, envoyaient régulièrement de gigantesques armées. C'était un boulot prodigieux, parce qu'il faut voir la balade. Il fallait trouver de l'eau, il fallait pouvoir nourrir des armées de 100 000 hommes, hein. C'était pas des petites armées. Il y a des armées d'ailleurs qui ont totalement disparu, dans des tempêtes de sable monstrueuses dans le désert. Il y a eu des drames absolument gigantesques. Mais ils ont réussi finalement, au 1er siècle après Jésus-Christ, à bouter ces Xiongnu beaucoup plus au nord, et les Chinois à ce moment-là se sont dit on est tranquille. Pas du tout. Cette Mongolie était un réservoir de tribus turques, toutes plus belliqueuses les unes que les autres, qui vont continuer à attaquer la route de la soie. Donc finalement, les Chinois ont dit, pour s'en sortir, on n'a qu'une solution, on va construire des places fortes sur toute la longueur du parcours. Donc à côté des sites bouddhiques, aujourd'hui, il y a beaucoup de forts, de places fortes, alors de villes mortes aussi, abandonnées actuelles, mais qui sont d'une beauté prodigieuse, posées dans le désert, c'est assez exceptionnel. Alors les Chinois, pendant en gros 1000 ans, ils vont maintenir le contrôle de la route de la soie, mais malheureusement, ils vont se prendre une déculottée à la bataille qu'on appelle la bataille de Talas, parce que les musulmans, eux, progressaient, ils arrivaient doucement. Et ils vont perdre, les Chinois vont perdre cette bataille, ils vont refluer, et ils vont laisser la porte ouverte à l'islamisation de toute cette partie qu'on appelait le Turkestan oriental, après le Turkestan chinois, et aujourd'hui ce qu'on appelle la province du Xinjiang, puisque la Chine a intégré cette région en 1930 à peu près à l'État chinois. Donc on a deux mondes culturels, un monde bouddhique, très important pendant quasiment 1000 ans, et ensuite on a toute cette empreinte musulmane qui est aujourd'hui présente sur la route de la soie. Et d'ailleurs, quand on est dans cette région, on n'est pas en Chine. Les populations, les mosquées, la nourriture, tout est différent, tout est différent.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste des bouddhistes dans cette partie-là ou...
Oui, il reste quelques moines bouddhistes, bien évidemment, notamment donc après la ville de Lanzhou, quand on arrive dans un temple qui s'appelle Bingling, là, il reste des moines bouddhistes qui se sont installés au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, il y en a, dans plusieurs régions, il y a encore des moines bouddhiques, bien évidemment. Il y a un mélange de cultures bouddhiques, islamiques, voilà.
toutes ces cultures vivent en harmonie.
Globalement, oui, ça vit en harmonie. Aujourd'hui, ce qui ne vit plus en harmonie, c'est le conflit entre les Chinois et les Ouïghours, du fait d'un certain nombre d'attentats qui ont été réalisés par des djihadistes ou des nationalistes violents, parce que au départ, dans cette région du monde, les Ouïghours étaient largement majoritaires. Et puis, on a trouvé du pétrole, du gaz. Donc, les Chinois ont colonisé, on va dire aujourd'hui, cette région. Et on peut dire que maintenant, ils sont quasiment à parité. Avant, il y avait, 90% de Ouïghours et 10% de Chinois. Aujourd'hui, c'est du 50-50. Donc, les Ouïghours ne se sentant plus vraiment chez eux, n'ayant pas véritablement accès à la richesse locale, eh bien, il y a une frange nationaliste qui s'est un petit peu développée et les plus extrêmes ont dû aller se former en Afghanistan, en Pakistan et sont revenus faire des attentats djihadistes. Les Chinois, pour verrouiller tout cela, ils ont dit « on va travailler à la chinoise ». Donc vous savez très bien qu'aujourd'hui on parle d'un million de Ouïghours dans des centres de formation soi-disant professionnels. Bon, je n'ai pas pu aller voir, vous en doutez bien. Mais il y a une tension aujourd'hui, surtout entre les Ouïghours et les Chinois, ça c'est sûr. Les bouddhistes, les moines dans leur monastère vivent leur vie globalement tranquillement. Eux.
Alors, on revient à cette route de la soie. Quelle va être notre prochaine étape ? Donc, Alors, désert de Gobi.
Quand on est à Lanzhou, on commence à traverser le désert de Gobi. Alors de là, on va passer dans différentes cités. Wuwei, par exemple, où on a retrouvé la tombe d'un général chinois. Puis pour le protéger, ils avaient mis une petite armée en bronze super jolie. Et puis aujourd'hui, à l'entrée du site archéologique, ils ont construit la même armée, mais à taille humaine. Et dans ce tombeau, ils ont surtout découvert un très beau cheval d'une facture exceptionnelle, avec le pied arrière droit qui est posé sur une hirondelle. Ça symbolise la vitesse. Et ce cheval, qu'on appelle un cheval céleste, est devenu aujourd'hui l'emblème de la route de la soie. Parce que le problème des Chinois, quel était-il ? Avec ces nomades cavaliers redoutables, Turcs qui dégringolaient sans arrêt de la Mongolie, ils étaient dépassés par les événements parce qu'ils n'avaient pas de cavalerie, les Chinois. Donc, en fait, l'ouverture de la route de la soie, elle est liée à quoi ? Eh bien, elle est liée au fait que les Chinois se sont dit « il faut à tout prix qu'on se procure des chevaux et qu'on monte nous aussi une cavalerie pour affronter ces satanés nomades qui étaient de redoutables guerriers ». Donc, ils ont été passés des accords dans les montagnes célestes avec des groupes ethniques qui vivaient là-bas, qui étaient de gros éleveurs de chevaux. Donc, ils sont accaparés. Alors, on échangeait ça contre de la soie. La soie, à l'époque, les rouleaux de soie, c'était de la monnaie. Donc là, ils en ont récupéré un gros stock qu'ils ont mis dans des pâturages gigantesques que j'ai été filmé, car il y a encore ces chevaux là-bas. Et ils ont commencé à former leur cavalerie. Ensuite, ils sont allés dans ce qu'on appelle le Fergana, qui est l'Ouzbékistan actuel, si vous voulez. Et là, ils ont été s'approvisionner avec d'autres chevaux encore, qui étaient des chevaux tout à fait fascinants. Et on parle souvent que c'était les descendants de Bucéphale, le célèbre cheval d'Alexandre le Grand. Et donc, il y a eu un double apport de chevaux qu'ils ont montés sur les plateaux tibétains pour les nourrir. Ils ont formé leur cavalerie. Et grâce à ça, ils ont pu affronter enfin avec succès les nomades et les boutés plus loin.
Et donc sécuriser
la route de la soie. À partir de là, ils ont pu à peu près conserver la mainmise sur cet axe commercial qui était important. Puisqu'il y a 2000 ans, les soies qui étaient formées, fabriquées dans un oasis qui est situé sur la route sud, qui s'appelle Khotan, ces soies fabriquées à Khotan il y a 2000 ans étaient vendues à Rome. C'est là qu'on voit que le transit sur la route de la soie, il n'est pas d'aujourd'hui.
Quelle est la prochaine étape que vous nous proposez ?
Plus loin, il y a un autre oasis qui s'appelle... Alors, entre les oasis, il y avait à peu près 3 semaines de progression. Mais 3 semaines, difficile, hein, c'était pas...
Dans un vrai désert.
Ah, dans un vrai désert, c'est du désert complet. Donc, à l'époque, il est évident qu'entre les oasis, très souvent, en fait, les caravaniers revendaient leur stock et c'était une autre caravane qui poursuivait. Parce qu'un Chinois qui partait de Xi'an n'avait aucune maîtrise du Gobi ou du Taklamakan. Il ne savait pas où était le point d'eau, il ne connaissait pas le bourrin, le terrible vent de sable, etc., etc. Donc, ce n'était globalement très souvent que des locaux qui progressaient. Alors, les caravanes étaient énormes. Ça pouvait atteindre 700 chameaux, 500 bons hommes. Il y avait souvent une armée qui les protégeait parce qu'il y avait quand même des tas de hordes qui les attaquaient. Il faut imaginer une caravane de cet ordre-là, quand elle se posait dans le désert, il fallait de l'eau, il fallait les nourrir, l'infrastructure...
Les hommes et les bêtes.
Et les bêtes, c'était absolument démentiel. Alors pour l'eau, car il n'y avait pas beaucoup de points d'eau, ils allaient souvent chercher de la glace dans les montagnes célestes, et les chameaux portaient de la glace qui fondait petit à petit. Donc quand ils traversaient ce désert, juste à l'entrée, donc il y avait cette ville de Zhangye où Marco Polo est passé à son époque, et il a été notamment visiter un fantastique Bouddha couché qui est dans un temple. Et quand Marco Polo s'est incliné devant ce Bouddha et était le voir, il avait déjà 200 ans le Bouddha, et il est toujours là. Sur toute la longueur du parcours, il y a des sites de cet ordre-là. Ça peut être une ville morte, ça peut être un merveilleux temple avec un Bouddha gigantesque couché, etc., etc. Donc on progresse de sites comme ça, archéologiques, de villes mortes, d'anciens caravansérails, sur toute la longueur de la route de la soie. Alors aujourd'hui, la route de la soie,
elle est balisée.
C'est une autoroute d'une modernité folle, bordée par des millions de panneaux solaires, des éoliennes, lignes haute tension.
Ça doit perdre un petit peu de magie.
Ben, ça perd de la magie. Il faut aller sur les sites, ou alors il faut partir sur des pistes périphériques dans les montagnes célestes et tout. Mais la branche sud reste quand même une très très belle balade. Par contre, très compliquée à faire, pas facile d'accès.
Des anecdotes dans le désert de Gobi, en dehors de ces étapes que vous évoquiez
Non, dans le désert de Gobi, il n'y a pas eu d'anecdotes énormes. Essayer de filmer les sites, c'était toujours compliqué parce que c'est interdit, donc là, il faut trouver des combines. Mais non, après, on est rentré dans le Taklamakan.
Qui est l'autre désert, donc l'autre désert au nord.
Il y a le Gobi, ouais. Et puis plus à l'ouest, il y a le Taklamakan en prolongement, qui arrive au pied de la chaîne du Pamir. Voilà.
Ouais. On remonte un petit peu, en fait.
Voilà, on remonte vers l'ouest, là. Il y a le Jayuguin, qui est une ville étonnante parce qu'ils font des spectacles d'eau musicale, mais gigantesques. Hein. C'est pas des petites maisons, hein, là-bas, ce sont des immeubles, c'est à la chinoise. Quoi. On est en plein désert, donc on se dit il n'y a pas d'eau. Pas du tout, il y a plein d'eau sous le désert. Et la preuve, c'est ce spectacle géant qu'on voit dans le film. Et à Jayuguin, il y a surtout un fort très connu, qui est le fort de Jayuguin, qui date du XIVe siècle, et qui est un fort merveilleux, qui aujourd'hui sert très souvent de tournage pour les séries chinoises sur l'histoire de la route de la soie, sur un fait historique et tout. Et là, il est posé en plein désert et c'est une grande, grande beauté, ce fort. C'est vraiment merveilleux.
Donc, il a été construit à quelle occasion, ce fort?
Ben, il a été construit pour contrôler la route de la soie au XIVe. Parce qu'en fait, les Chinois, on dit souvent, ils ont prolongé la Grande Muraille jusqu'à l'extrémité, la partie occidentale, si vous voulez. Mais en fait, les Chinois, le contrôle de la route de la soie, c'était très variable. En fonction des dynasties, ils arrivaient à contrôler jusqu'à ce qu'on appelle la porte de Jade, qui est à l'entrée, pour faire simple, du désert du Taklamakan et à la fin du Gobi. Et puis, à d'autres époques, ils n'y arrivaient pas. Alors, ils reculaient et ils contrôlaient 1000 km avant. Ça dépendait des attaques de ces nomades. Donc, en fait, leur contrôle était très variable. Donc, c'est pour ça que cette muraille, ils l'ont quand même prolongée jusqu'en Asie centrale, jusqu'au Turkestan. Alors, la Grande Muraille n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans la région de Pékin. Là, on est sur une muraille assez basse, d'ailleurs, qui est en terre, avec des roseaux, mais qui s'est complètement érodée avec 2000 ans d'histoire, ensablée, évidemment, etc., etc. Mais on la voit encore très bien. Il y avait des tours à espace régulier, dans lesquels il y avait des guetteurs, jour et nuit, qui étaient là-haut. Et quand ils surveillaient les horizons d'Asie centrale, et quand ils voyaient des armées de nomades, de turcs qui arrivaient, ou de huns à l'origine, si vous voulez, eh bien, ils faisaient un feu. Et puis, cette fumée qui se propageait de tour de contrôle en tour de contrôle, ils refaisaient un feu. Et le fort de Jayuguin, où il y avait une grosse armée, savait qu'il y avait un risque. Donc, ils envoyaient, à ce moment-là, des cavaliers. Et à la porte de Jade, qui était la fin de l'Empire céleste, il y avait en permanence des milliers de cavaliers qui n'étaient prêts à intervenir au moindre danger.
C'est assez incroyable hein, de revisiter cette histoire de la route de la soie.
Ce qui est étonnant, c'est l'énergie, la difficulté et les finances que tout cela a nécessité. On n'imagine pas, il y a 2000 ans, une armée qui partait s'installer là-bas. Mais la vie des guerriers, c'était redoutable. Alors en plus, il fallait se nourrir, donc ces guerriers, c'était des paysans. Donc en fait, ils se débrouillaient pour faire pousser quand même des légumes dans le sable. Il fallait s'organiser, là où rien ne pousse. Donc il fallait trouver de l'eau et tout, et ils y arrivaient.
Extrêmement ingénieux.
Très ingénieux, très très ingénieux, bien sûr.
Et peut-être pas beaucoup le choix non plus, de toute façon.
Non, là, ils n'avaient pas le choix du tout. Il y avait un quota de militaires, de paysans prélevés dans tous les villages à l'époque. C'était non négociable. Hein, boum, ils partaient à la guerre, ils passaient leur vie à la guerre.
Dynastie impériale chinoise, on a une image.
Oui, bien sûr, c'est une population qui était corvéable à merci. Hein. Donc, il fallait tant de centaines de milliers de soldats dans les villages. On prélevait. Hein. Il y a d'ailleurs des poètes comme Du Fu qui, dans de très beaux poèmes, parle de ces étendues couvertes d'eau blanchie, parce qu'il y avait des dégâts, ils y restaient tous là-bas. Hein.
Donc c'est l'occasion, là, aujourd'hui, de leur rendre hommage. Oui, et puis, de poursuivre, on va peut-être avancer un petit peu plus vite pour arriver à notre étape finale.
Oui, donc, quand on était à l'entrée du Taklamakan, là, il y avait toute une succession d'oasis. Il y avait une branche nord qui passait par Urumqi. Urumqi, c'est devenu la capitale du Xinjiang aujourd'hui. Puis après, il y avait différents oasis. Et quand on finissait la route nord ou la route sud, on arrivait à Kashgar, qui était l'oasis le plus connu, qui encore aujourd'hui est protégé par des murailles absolument gigantesques, qu'ils sont en train de retaper d'ailleurs. Et la taille de ces murailles, comme je dis souvent, ça donnait une idée de la richesse de ce qui était transporté à d'autres chameaux à l'intérieur quand ils se mettaient à l'abri la nuit, si vous voulez. Donc ça, c'était la cité la plus importante de la route de la soie. Et de là, en fait, ils montaient sur le toit du monde, au Pamir, pour se diriger vers l'Asie centrale, donc Pakistan, l'Afghanistan, certains filaient après vers l'Iran, il y avait une branche qui descendait vers les Indes, etc., etc. Alors c'était difficile pour eux, parce qu'ils avaient affronté pendant, il fallait un an de Sian à Kashgar pour transporter les marchandises par des caravaniers différents. Mais ceux qui faisaient la dernière partie, qui étaient de Kashgar, souvent montaient sur le Pamir aussi. Donc, ils avaient à gérer des températures de 50 degrés, à peu près, parce que là-bas, il fait tellement chaud qu'on dort dehors dans des lits tout le temps. Et puis ensuite, ils montaient au Pamir, où là, il faisait un froid d'enfer. Donc, c'était pas évident pour les hommes. Et dans le film, en même temps, sur cette route de la soie, j'ai retracé une chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que, juste avant Kashgar, il y a un oasis qui s'appelle Aksu, où en 1931 sont arrivées deux équipes de la croisière jaune. Et oui, c'est le parcours qu'ils ont fait. Ils ont traversé le Pamir, une des branches a traversé le Pamir, et ils se sont retrouvés à Aksu, l'autre branche était partie de Pékin. Et donc, j'ai mis dans le film un extrait de la croisière jaune. Et alors là, c'est pareil, c'était des allumés complets, quoi. Complets. Il y a un moment dans l'extrait que j'ai mis, ils n'arrivent plus à passer, c'est d'une difficulté folle. Il y a de la neige, il y a des cols, enfin bon, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ils avancent avec des auto-chenilles et tout. Ils démontent les auto-chenilles en pièces détachées, il y a une multitude de porteurs, et en fait, en 24 heures, la voiture, en pièces démontées, fait 200 mètres. Quoi. Non, il y avait aussi quelques allumés chez nous. Hein. Il y en a eu à l'époque avant, Marco Polo et des grands voyageurs, mais là, c'était absolument prodigieux. Quoi. Alors, ce qui est important aussi sur l'histoire de la route de la soie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, notamment à Dun Huang, là où il y a le plus grand musée du monde d'art bouddhique, il y a plus de 847 grottes. En fait, cette route de la soie, c'est là que se sont rencontrées les trois grandes cultures, indienne, grecque et chinoise. Et là, on a un mix de cultures, et là, on voit, par de vieux manuscrits qui ont été retrouvés dans ces grottes, que la route de la soie, c'était un appel culturel qui venait de partout. Donc ça a été un espèce de melting pot extraordinaire, qui a fabriqué un petit peu ce qu'est la Chine aujourd'hui, bien évidemment, et notamment cette région d'Asie centrale. Alors pour revenir maintenant au Pamir, donc ils montaient au Pamir, donc là au Pamir ils trouvaient des Kirghizes, qui étaient de grands éleveurs de chevaux, et en arrivant sur le toit du monde, au Pamir, ils passaient notamment à côté d'un lac, qu'on appelle le lac Karakul, qui est à 4006 à peu près, et au pied du lac, dominant le lac, il y a une montagne superbe qui s'appelle le Mustagata, qui doit faire 7546 mètres de mémoire, et ça c'était un point d'ancrage important. Quand les caravaniers arrivaient là, ils savaient que c'était le début d'une autre galère, le plateau du Pamir, et donc ils traversaient tout ce plateau, il y avait des rivières à franchir. Ce n'était pas facile du tout. Hein. Le Pamir, c'était d'une redoutable difficulté. C'était un des bouts de la piste, d'ailleurs, qui craignaient tous.
Et vous, ça a été votre point d'arrivée. S'il fallait retenir une chose, un commentaire de toute cette route de la soie, c'est très compliqué de résumer un an et demi. Vous avez passé, c'est ça, c'est, ouais. Donc c'est compliqué de résumer un an et demi en une phrase.
Une chose pour résumer la route de la soie, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est compliqué, mais si vous avez la chance de pouvoir aller visiter la route de la soie, il faut y aller, parce que c'est prodigieux. Les sites, l'atmosphère...
De s'écarter un peu des autoroutes, alors.
Mais aujourd'hui, non, parce que vous n'aurez pas la possibilité, vous n'aurez pas de véhicule comme moi, donc vous allez suivre les autoroutes, vous allez prendre un train, vous allez prendre même un avion, c'est tellement grand. Mais en arrivant dans des villes comme Tourfan, que j'adore, qui est une des villes les plus chaudes de Chine, ben, il y a des sites étonnants à côté de Tourfan, donc là on va par des petites routes et on visite des sites archéologiques qui sont passionnants, si on aime l'histoire. En fait, dans chaque oasis, il y a toujours quelque chose à voir, à observer. Et puis la ville, là, on est en Asie centrale, Donc la vie dans les marchés et tout, c'est quelque chose. Quand il y a l'ambiance, la nourriture est complètement différente. Il y a plein de brochettes de moutons. Enfin, c'est un autre monde. Mais moi, j'adore. C'est un monde musulman. Alors, ce sont des musulmans sunnites très, très tolérants. Hein. Moi, j'ai vécu avec eux. Il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. À la fin, ils voulaient d'ailleurs plus que je reste chez eux parce qu'avec le conflit avec les Chinois, ils m'ont dit, on va avoir des problèmes et toi aussi, ce que j'entendais très bien. Donc, je l'ai regretté, mais bon, j'ai appliqué la règle, c'est évident. Mais ce sont des sunnites... je dirais, ils vivent comme nous, quoi, dans un monde différent. Je regardais le rapport homme-femme dans les familles, ça se passait superbement bien. Enfin, des gens normaux, quoi, je dirais, tout à fait, et très hospitaliers et très sympathiques. Hein. Le monde musulman est un monde, en fait, quand on le connaît, qui est agréable. Hein. Il y a un grand sens de l'hospitalité. Sont des gens qui sont fiables, hein, en amitié et tout.
Rien de tel, effectivement, que les voyages, la découverte d'autres cultures pour battre en brèche quelques idées reçues. Hein.
Idées reçues. Oui, non, mais tout à fait. On fait aujourd'hui un amalgame terrifiant avec des extrémistes. On a l'impression que tous les musulmans sont des djihadistes. Point du tout, quoi. Il y a une multitude de musulmans dans le monde qui vivent tout à fait paisiblement. Le problème, c'est que ces extrémistes, mine de rien, sont très, très actifs. Il y a une mémoire historique qui est difficile pour eux, je pense. L'effondrement de l'Empire ottoman, la Reconquista, quand ils se sont fait évacuer d'Espagne, tout ça, c'était le plus grand empire à l'époque. L'Empire ottoman, c'était monumental. Donc il y a une espèce de fracture dans leur histoire, de fierté nationale, de fierté religieuse, puisque mélange la religion et l'État, si vous voulez. Et donc tout ça, c'est encore inscrit 5 siècles après. Et moi, je dis souvent qu'on ne se rend pas compte du poids de l'histoire. Le poids de l'histoire, il est colossal. Je suis certain que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des traces de la chute de l'Empire ottoman, il y a des traces de la Reconquista, et tout cela à 5 siècles quand même, c'est pas hier. Eh bien oui, il y a eu une atteinte à cette grandeur, que c'est un empire qui s'est effondré, et il voudrait retrouver un petit peu cette grandeur. Ce que fait la Chine aujourd'hui, qui était passée à la trappe, qu'on avait mis coupée en rondelles, avec des ports francs, avec les colonies françaises, japonaises, russes, tout le monde était installé là-bas. On ponctionnait la Chine en veux-tu, en voilà. La Chine était à genoux. Et bien aujourd'hui, le Chinois, il est très nationaliste. Il a retrouvé de cette grandeur et puis il veut devenir le premier du monde, quoi, c'est sûr. C'est une inspiration
légitime,
internationale. Tous les pays sont comme ça. Même, je vois la France, quand on voit aujourd'hui, on parle plus français à la cour russe aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça a changé. Mais à un moment, on a une place énorme dont on parle encore souvent.
Parce que, on est un petit peu nostalgique.
On est un peu nostalgique d'avoir été pendant longtemps certainement une des puissances les plus importantes du monde. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Et d'autres pays, c'est pareil. Donc quand ils relèvent la tête, et je pense que les musulmans, ils sont aussi un petit peu là-dedans. Ils voudraient accéder à cette puissance internationale, à une reconnaissance. Alors évidemment, il y a le problème de cette religion qui mélange les deux. Ça, c'est un vrai problème. Mais... je voyais en Chine, ils allaient à la mosquée, j'étais avec eux, ça se passait ma foi tranquillement, hein, j'ai pas eu de problème, hein, aucun.
Bon. Un grand merci Patrick Maté de nous avoir fait découvrir donc une autre culture, de nous avoir fait voyager un petit peu avec Marco Polo, mais surtout avec vous donc sur la route de la soie. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient avoir les images de votre voyage, on peut se procurer les DVD.
Oui, vous pouvez vous procurer bien évidemment les DVD. Il suffit de me mettre un petit mail, mon adresse internet. Et l'adresse est la suivante. Donc c'est, je vous l'appelle, P, c'est mon prénom, je m'appelle Patrick Maté. Donc mon adresse mail c'est P, M-A-T-H-E, le chiffre 1, @yahoo.fr. Et moi, je vous réponds, et si vous êtes intéressé par un DVD, je vous le fais parvenir, vous me faites parvenir un chèque, et je vous envoie le DVD. Et il y a aussi des livres, enfin, il y a mille et une choses.
Oui, c'est ça, on n'a pas parlé de vos livres, mais il y a aussi des livres. Hein. Donc, en tout cas, on peut trouver sur Internet beaucoup de choses qui nous permettront de voyager avec vous, Patrick Maté. Un grand merci pour cette évasion d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Voyage au bout du monde, une rencontre proposée par Isabelle Rupin.